instant, dit d'une voix dure. « Ah ! Mademoiselle a bien raison de pleurer, car si monsieur est mort, c'est bien à cause de mademoiselle. » La vieille servante se tenait là, debout, à l'écart, près de la porte de sa cuisine, souffrante, exaspérée qu'on lui eût pris et tué son maître. Et elle ne cherchait même pas une parole de bienvenue et de soulagement pour cet enfant qu'elle avait élevé. Sans calculer la portée de son indiscrétion, la peine ou la joie qu'elle pouvait faire, elle se soulageait, elle disait tout ce qu'elle savait. « Oui, si monsieur est mort, c'est bien parce que mademoiselle est partie. » Du fond de son anéantissement, Clotilde protesta. « Mais c'est lui qui s'est fâché, qui m'a forcé à partir. »« Ah bien, il a fallu que mademoiselle y mit de la complaisance pour ne pas voir clair. La nuit d'avant le départ, j'ai trouvé monsieur à moitié étouffé tant il avait du chagrin. Et quand j'ai voulu prévenir mademoiselle, c'est lui qui m'en a empêché. Puis je l'ai bien vu, moi, depuis que mademoiselle n'est plus là. » Toutes les nuits, ça recommençait. Il se tenait à quatre pour ne pas écrire et la rappeler. Enfin, il en est mort, c'est la vérité pure. Une grande clarté se faisait dans l'esprit de Clotilde, à la fois bien heureuse et torturée. Mon Dieu, c'était donc vrai ce qu'elle avait soupçonné un instant. Ensuite, elle avait pu finir par croire, devant l'obstination violente de Pascal, qu'il ne mentait pas. Qu'entre elle et le travail, il choisissait sincèrement le travail, en homme de science, chez qui l'amour de l'œuvre l'emporte sur l'amour de la femme. Et il mentait pourtant. Il avait poussé le dévouement, l'oubli de lui-même, jusqu'à s'immoler, pour ce qu'il pensait être son bonheur à elle. Et la tristesse des choses voulait qu'il se fût trompé, qu'il eût consommé ainsi leur malheur à tous. De nouveau, Clotilde protestait, se désespérait. « Mais comment aurais-je pu savoir? J'ai obéi, j'ai mis toute ma tendresse dans mon obéissance. »« Ah !» cria encore Martine. « Il me semble que j'aurais deviné, moi. » Ramon intervint, parla doucement. Il avait repris les mains de son ami. Il lui expliqua que le chagrin avait pu hâter l'issue fatale, mais que le maître était malheureusement condamné depuis quelque temps. La maladie de cœur dont il souffrait devait dater d'assez loin déjà. Beaucoup de surménage, une part certaine d'hérédité, enfin, toute sa passion dernière, et le pauvre cœur s'était brisé. « Montons, dit Clotilde, je veux le voir. » En haut, dans la chambre, on avait fermé les volets. Le crépuscule mélancolique n'était même pas entré. Deux cierges brûlaient sur une petite table dans des flambeaux au pied du lit. Et ils éclairaient d'une pâle lueur jaune Pascal étendu, les jambes serrées, les mains ramenées et à demi jointes sur la poitrine. Pieusement, on avait clos les paupières. Le visage semblait dormir, bleuâtre encore, pourtant apaisé déjà. Dans le flot épandu de la chevelure blanche et de la barbe blanche. Il était mort depuis une heure et demie à peine. L'infinie sérénité commençait, l'éternel repos. À le revoir ainsi, à se dire qu'il ne l'entendait plus, qu'il ne la voyait plus, qu'elle était seule désormais, qu'elle le baiserait une dernière fois, puis qu'elle le perdrait pour toujours, Clotilde avait eu un grand élan de douleur, s'était jetée sur le lit en ne pouvant balbutier que cet appel de tendresse. « Oh, maître, maître, maître !» Ses lèvres s'étaient posées sur le front du mort. Et comme elle le trouvait refroidi à peine, encore tiède de vie, elle put avoir un instant d'illusion, croire qu'il restait sensible à cette caresse dernière, si longtemps attendu. N'avait-il pas souri dans son immobilité, heureuse enfin et pouvant achever de mourir, à présent qu'il les sentait là, tous deux, elle et l'enfant qu'elle portait? Puis, défaillante devant la terrible réalité, elle sanglota de nouveau, éperdument. Martine entrait, avec une lampe qu'elle posa à l'écart sur un coin de la cheminée. Et elle entendit Ramon, qui surveillait Clotilde, inquiet de la voir bouleversée à ce point dans sa situation. « Je vais vous emmener, si vous manquez de courage. Songez que vous n'êtes pas seule, qu'il y a le cher petit être dont il me parlait déjà avec tant de joie et de tendresse. » Dans la journée, la servante s'était étonnée de certaines phrases surprises par hasard. Brusquement, elle comprit. Et, comme elle était sur le point de quitter la chambre, elle s'arrêta. Elle écouta encore. Ramon avait baissé la voix. « La clé de l'armoire est sous l'oreiller. Il m'a répété plusieurs fois de vous en avertir. Vous savez ce que vous avez à faire ?» Clotilde tâcha de se rappeler et de répondre. « Ce que j'ai à faire? Pour les papiers, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, je me souviens. Je dois garder les dossiers et vous donner les autres manuscrits. »« N'ayez pas peur. J'ai toute ma tête. Je serai très raisonnable. » « Mais je ne veux pas le quitter. Je vais passer la nuit là, bien tranquille. Je vous le promets. » Elle était si douloureuse, l'air si résolu à le veiller, à rester avec lui tant qu'on ne l'emporterait pas, que le médecin la laissa faire. « Eh bien, je vous quitte. On doit m'attendre chez moi. Puis il y a toutes sortes de formalités, la déclaration, le convoi, dont je veux vous éviter le souci. Ne vous occupez de rien. Demain matin, tout sera réglé quand je reviendrai. » Il l'embrassa encore, il s'en alla. Et ce fut alors seulement que Martine disparut à son tour, derrière lui, fermant à clé la porte, en bas, courant par la nuit devenue noire. Maintenant, dans la chambre, Clotilde était seule. Et autour d'elle, sous elle, au milieu du grand silence, elle sentait la maison vide. Clotilde était seule, avec Pascal mort. Elle avait approché une chaise, contre le lit, au chevet. Elle s'était assise, immobile, seule. En arrivant, elle avait simplement retiré son chapeau. Puis, s'étant aperçue qu'elle avait gardé ses gants, elle venait aussi de les ôter. Mais elle demeurait là, en robe de voyage, poussiéreuse, fripée par les 20 heures de chemin de fer. Sans doute, le père du